Oui, merci pour tout ce qui a déjà été dit. Merci aussi pour la louange. C'est vrai qu'il y a eu un mot là que Marlise a prononcé. Là. Dieu, il est pédagogue. Et puis je pense qu'aussi nous, dans ce qu'on entend, dans un message, il y a un aspect pédagogique aussi. Et puis Dieu, il est notre pédagogue au moment où chacun prend la parole pour sa gloire. Alors, nous entrons dans la cinquième semaine après Pâques. Hein. On a beaucoup parlé avant Pâques, on s'y est préparé. Maintenant, on entre dans la cinquième semaine après Pâques. Et puis, comme on l'a aussi beaucoup dit, Florian l'avait aussi dit avant la Pâques, il l'a dit il y a, je crois, deux semaines, avant la Pâques, il y avait Vendredi Saint. Il y a l'aspect de l'amour qu'on ne veut pas contourner pour pouvoir d'autant plus glorifier le jour de la résurrection, glorifier Jésus quand il vit. Et puis, le vécu de Vendredi Saint, justement, en Église, on y a trouvé un grand contraste en vivant ça. Et puis, à la fin du mois de janvier, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce qu'on lisait dans les cartes de prix, dans les cartes des versets bibliques, là. C'est un peu facile de poser la question comme ça, vu que j'étais trempé dedans, c'est un peu facile, donc je ne demande pas que vous répondiez forcément, mais... On avait vécu toute l'histoire de Joseph et ses frères. Ce qu'il y a aussi eu pour les personnes qui lisent le lecteur, dont je fais partie depuis 40 ans, là, il y avait aussi justement l'histoire de Joseph en même temps. Et puis, ce qu'il y a eu pour moi, c'est que le jour à peu près où ça s'est croisé, les deux, parce qu'on avançait plus vite avec les cartes qu'avec le lecteur, parce que là, oui, on lisait des chapitres entiers. Et puis, je suis tombé sur l'histoire de Joseph, surtout dans toute la dynamique avec Judas. Judas, donc, ce n'est pas notre Judas du Nouveau Testament, mais Judas, J-U-D-A. Et puis, ce matin, on va entrer un peu dans cette thématique-là. Et puis, les lectures principales, ce sera entre Genèse 29 et Genèse 44. Donc, on ne va pas tout lire, vous pensez bien. Et puis on va lire dans la Nouvelle Bible Seconde. Les versets qui seront cités, ce sera dans la Nouvelle Bible Seconde. Et puis parcourir la vie compliquée de Judas, on ne va pas fermer volontairement les yeux sur ce qui a été mauvais dans sa vie. Comme je vous ai parlé du contraste entre la nuit de Vendredi Saint et puis la gloire de Pâques, on va aussi parler de ces mauvaises choses de Judas, pour mettre en évidence cette miséricorde de Dieu. C'est ce que j'avais envie. Lorsque l'on parle de Joseph et de ses frères, il s'agit de la descendance de Jacob, qui compte en tout quatre mères. Il y a quatre mères déjà dans la descendance de Jacob. Cela sort aussi de notre manière de voir. Hein. Autant la vie de Judas, ben, on verra qu'elle dépasse notre manière de voir. Autant ce fait-là, c'est déjà quelque chose qui sort de notre manière de voir. La moyenne des familles actuelles recomposées aujourd'hui, elle n'arrive pas, on pourrait dire qu'elle arrive rarement à la cheville de la famille de Jacob, tellement il y avait des choses folles. Moi, j'ai encore été étonné maintenant en explorant ces chapitres. Alors, on va un peu entrer plus profondément dans cette famille. Je vais commencer par un verset dans Genèse 29, 17, 18. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel était d'une très grande beauté, et Jacob aimait Rachel. Il dit à Laban, son oncle, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Léa n'était pas la femme que Jacob avait désirée au départ, puisqu'il l'avait servi Laban pour Rachel, mais Laban a agi ainsi, prétextant au verset 26 du chapitre 29, il est inadmissible chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Donc il lui avait, on pourrait presque dire, refilé l'aîné. Il est aussi dit que Laban donna sa fille Zilpa pour servante à sa fille Léa. Je ne sais pas s'il y avait tout d'un coup un réflexe un peu de compensation. Il a encore donné sa servante à sa fille. Mais Dieu est présent dans cette situation de rejet. Déjà là, il y a un verset qui m'a vraiment impressionné. C'est écrit dans Genèse 29, 31. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée de Jacob et la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Dieu vient prendre soin de cette situation d'absence d'amour. Il s'y rend présent, un domaine pourtant si intime, où des mots sont difficiles à poser. Puis suite à l'intervention de Dieu en sa faveur, Léa donne naissance à 4 filles. Il y a d'abord Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Puis après, il y a une deuxième étape, justement, comme on a dit dans la descendance de Jacob. Il y a Rachel, la femme aimée de Jacob, qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle demande à son mari d'aller avec sa servante Bilha, afin qu'elle ait des enfants qui constitueraient une descendance pour Rachel. Ça aussi, ça sort notre entendement. Hein. Et pour bien marquer que c'est de Rachel que proviendraient les enfants, elle demande que sa servante Bilha accouche sur ses genoux. C'est bizarre, hein? De cette relation de Jacob et Bilha naissent deux fils, c'est Dan et Nephtali. On le trouve dans Genèse 36 et 7. Ensuite, Léa, ne pouvant plus avoir d'enfants, demande à sa servante Zilpa d'aller avec Jacob. Suite à cette union, naissent Gad et Aser. Et puis parallèlement, on se rend compte qu'il y a des tensions aussi entre Rachel et Jacob, entre Rachel et Léa. On voit dans Genèse 31, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Donc on voit jusqu'où la jalousie peut ranger quelqu'un, hein, jusqu'à l'amour. C'est quelque chose de fort. Et encore, après, entre Rachel et Léa, au verset 15 du chapitre 30 de Genèse, elle lui répondit, « Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari, que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » On voit qu'il y a ces tensions. C'est aussi suite à une désobéissance, finalement, que Dieu avait donnée par ses commandements. Dans Lévitique 18-18, il est dit, « Tu ne prendras pas la sœur de ta femme. » Tu exciterais une rivalité en exposant sa nudité en plus de celle de ta femme, du vivant de celle-ci. Donc on voit que finalement, il y a une logique, une suite logique des choses. Puis après cet épisode des mandragores, que Ruben, fils aîné de Léa, donne à sa mère. Les mandragores, c'est des plantes qui ont des vertus de fertilité. Et puis suite à tout ça, on voit que Léa, qui était considérée comme après ses 4 fils, ne plus pouvoir avoir d'enfants. Elle a encore 3 enfants qui sont Issachar, Zabulon et puis Dina. Ils viennent s'ajouter donc aux 4 premiers de ses fils. Après, à ce moment-là, on voit une deuxième manifestation de Dieu qui m'a touché aussi, qui comme pour Léa précédemment, donc qui est la sœur de Rachel, se souvient de Rachel. C'est écrit, il l'entendit et la rendit féconde. Donc, pour Léa, c'est marqué « il vit » et puis ici, « il l'entendit ». Et puis, ça fait penser que Dieu, il répète sa bénédiction, mais pas de façon stéréotypée, mais quelque part, il personnalise. Pour chacun, c'est différent. Et puis, suite à cette nouvelle intervention de Dieu, naîtra Joseph, puis quelques années plus tard, Benjamin. Et puis, on voit tout de suite, entre ces deux frères, il existe un lien fort. Bon, non, on ne le voit peut-être pas tout de suite, mais en lisant, par exemple, dans Genèse 43, 29 à 30, quand Joseph est déjà gouverneur en Égypte, c'est écrit, il leva les yeux, c'est quand tous ses frères sont arrivés, hein, puis qu'il y avait aussi Benjamin, et voyant Benjamin son frère, le fils de sa mère, donc on voit aussi que c'était des fils qui avaient une même mère, donc il y avait déjà un lien particulier. Il dit, « Est-ce là votre petit frère, celui dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta, « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Et puis là, on voit, « Joseph coupa court, car il était ému de voir son frère. Il avait envie de pleurer. Il sortit dans une autre pièce et se mit à pleurer. » Donc un lien fort entre Joseph et Benjamin. Et puis vu de Jacob aussi, on voit que dans Genèse 44, 27 à 29, il dit notamment, Jacob, « Vous savez que ma femme m'avait donné 2 fils. » Donc on voit qu'il y a ces 2 fils aussi qui sont sous un même toit. Et puis quand il dit sa femme, on voit vraiment que c'était Rachel qu'il aimait de nouveau ici. Des frères de Joseph, dans tout ce récit, seuls deux membres sont mentionnés par leur nom. Le premier, c'est Ruben, c'est le premier nommé, l'aîné qui veut ramener Joseph vivant à son père. D'accord, on voit quand il complote là, en entendant ses frères qui parlent de faire mourir Joseph, Ruben, il réagit. Et puis il y a ce verset justement qui dit « Ruben entend de cela et il délivra de leurs mains. » Il le délivra de leurs mains. Il dit « N'attend-on pas à sa vie ?» Ruben leur dit « Ne répandez pas de sang. Jetez-le contre cette citerne, dans cette citerne qui est dans le désert. Et ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père. On peut percevoir en Ruben des intentions sincères, celles du frère aîné, le garant de son petit frère Joseph, envers leur père Jacob. Il avait cette responsabilité. Là, je pose juste une parenthèse, il n'avait pas le droit d'aîné, il l'avait perdu, parce qu'en même temps, Ruben, il avait couché avec la femme de son père, il y avait eu aussi quelque chose qui l'avait privé de son droit d'aîné. Alors, le deuxième frère nommé de Joseph, ici dans ce récit, est celui sur lequel nous arrêterons maintenant, c'est Judas. Puis il fait le centre de notre thème ce matin. À part les mentions de sa naissance dans Genèse 29, 35 et de sa position dans la fratrie dans Genèse 35, 23, son nom apparaît pour la première fois juste avant cette scène qu'on peut voir ici. On peut deviner des intentions de Judas en lisant dans Genèse aussi, 37, 26 à 27. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à couvrir son sang ? Venez, vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. À un moment donné, Ruben et Judas ont tous les deux eu un rôle protecteur envers Joseph. Tous les deux fils de Léa, de nouveau là on voit qu'ils sont les frères de la première femme, les frères aînés aussi. Il y a un lien plus fort peut-être, puis ils ont une certaine solidarité, un certain sens de la responsabilité par rapport à leur frère Joseph. Cependant, chez Judas, deux comportements apparaissent, puis ça on le voit bien. Il y a d'un côté le désir de tirer un profit financier, mais en même temps, il invoque le fait que Joseph est leur frère. Il les met face à la réalité incontestable. D'un côté, on voit ses bonnes intentions, reconnaissant la valeur des liens fraternels, mais également guidé par l'amour de l'argent. Il veut tirer profit, et puis là, on voit quelque part qu'il y a de l'idolâtrie qui existe dans le cœur de Judas. Oui, parce que l'amour de l'argent, on peut l'appeler idolâtrie. Et puis après, on arrive dans ce chapitre 38, qui paraît un petit peu comme une verrue, hein, comme quelque chose qui vient couper l'histoire de Joseph. Puis, en fin de compte, en étant penché sur tous ces textes, on voit que ce chapitre 38, il a un tel sens dans toute cette histoire de Joseph, parce que pour Judas, il y a vraiment, on pourra le voir, un avant et un après. Alors ce chapitre 38, il dévoile l'épisode de Judas et Tamar, et parallèlement, tout un pan de la personnalité de Judas nous est dévoilé. Voici comment ce chapitre commence. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira auprès d'un homme d'Adoulam nommé Ira. S'éloigner de ses frères, un autre facteur de risque pour Judas dans sa descente. Oui, je l'appelle descente parce que pendant tout ce temps, on voit que c'est comme s'il descendait un peu des marches dans sa vie. Vous voyez, dans sa relation avec les autres, avec Dieu, avec lui. Et puis, il y a un commentaire dans la Nouvelle Bible Second qui parle ici, qui dit ceci, « Les événements de ce chapitre illustrent les dangers auxquels Israël doit faire face en tant que peuple de Dieu, s'il demeure parmi les Cananéens. » On peut aussi faire un peu un parallèle avec l'Église aujourd'hui. Hein. On demeure au milieu d'un monde, puis on a aussi des dangers auxquels on a à faire face. Et puis ça continue, ce commentaire, c'est de force que Joseph a été séparé de ses frères. Judas le fait volontairement pour chercher fortune parmi les Cananéens. Alors il y a cet amour de l'argent, et le fait qu'il s'éloigne de ses frères, un terreau favorable pour rendre Judas vulnérable dans la suite de ses choix de vie. Et puis toute la suite de ses choix de vie s'est accompagnée d'événements difficiles et douloureux. C'est peut-être ici qu'on arrive un peu dans le cœur de ces choses, de ces péchés aussi que je n'avais pas envie de contourner, de vraiment les nommer. Il y a déjà le choix d'une femme, la fille d'un Cananéen nommé Choua. Je suis d'ailleurs étonné qu'on ne voit pas le nom de la femme, mais juste lui, le père. Ensuite, il y a Judas, il était à Kézib quand elle accoucha de Shéla, donc le troisième fils. Là. Et ça veut aussi dire qu'il y avait une absence, hein, il n'était pas vraiment peut-être dans le coup. Ça peut aussi faire réfléchir. Er, le premier-né de Judas, déplut au Seigneur et le Seigneur le fit mourir. Là, on ne sait pas pourquoi, mais c'est écrit ça, au verset 7. Ensuite, il y a ce deuxième fils, Onan. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur. On le voit au verset 9, qu'il le fit aussi mourir. En fait, lui, on sait ce qu'il a fait. Il renonce à avoir des enfants de cette femme, car, se disait-il, cette descendante ne lui appartiendra pas. Donc, il a évité d'avoir des enfants. Puis, donc, lorsqu'il allait avec la femme de son frère, il laissait sa semence, c'est écrit, se perdre par terre, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Après, on voit aussi Judas qui dit vouloir que Tamar retourne chez son père en attendant que Shéla, donc le troisième qui devait être beaucoup plus jeune, j'en conclue, fils de Judas, soit mature pour permettre à ce Shéla de se marier avec elle. Là aussi, il y a une mainmise et le contrôle de Judas sur sa belle-fille, Tamar, qui me frappe. Il me semble que c'est davantage qu'uniquement une question de culture, mais Judas avait vraiment envie de conduire les choses comme ça, un peu sous son emprise. Vous pourrez aussi relire peut-être ce texte, puis voir comment vous réagissez face à ça, mais ouais, c'est assez fou. Ensuite, le verset 11 qui me fait interpréter que Judas n'avait aucune conviction de donner son troisième fils à Tamar, car il disait « Celui-là aussi va mourir, comme ses frères. » Donc là, aussi, est-ce qu'il était animé d'un fatalisme ou bien de tout autre projet obscur? En tout cas, c'est drôle, bizarre. D'où venait cette attitude de Judas envers Shéla, envers Tamar? À ce moment précis, n'aurait-il pas été le moment pour Judas de s'interroger sur sa vie? Vu d'ici, on peut imaginer plein d'aiguillages possibles à ce moment de sa vie. S'il s'était posé des questions, il aurait pu peut-être se poser sa position face à ce qui est bon, à ce qui est juste, se poser sa question face à sa relation avec Dieu, face à sa relation avec ses pères, avec son père, mais aussi sa relation avec lui-même. N'y avait-il pas une alarme qui aurait dû sonner en lui, qui aurait dû retentir? Mais peut-être, justement, il y avait trop de choses déjà qui avaient fait que ça ne pouvait plus tellement sonner, sa conscience était déjà un peu effacée, ou bien il y avait des couches dessus. Donc lorsque des attitudes, des intentions, des sentiments étrangers parviennent à notre conscient et notre conscience, empêchant la paix en nous, osons nous arrêter et les questionner, peut-être réfléchir à nos choix anciens et actuels. J'y reviendrai à la conclusion. Souvenons-nous qu'il est toujours possible de s'approcher de frères et sœurs. C'est préférable à l'éloignement qu'a vécu justement Judas quand c'est écrit « il s'éloigna de ses frères ». Dans cette liste aussi de péchés, il y a la promesse non tenue de Judas de donner son troisième fils Shéla à Tamar. Et puis après, autre chose, Judas va avec une prostituée sans savoir que c'est sa belle-fille Tamar. En plus, encore ça. Ensuite, on peut lire dans Genèse 38, 24 à 25, ça c'est un peu le comble, c'est un peu le début d'un dénouement. Environ 3 mois après, on va dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Elle est même enceinte de sa prostitution. » Alors Judas dit, « Faites-le sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme elle la faisait sortir, elle fit dire à son beau-père, « c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle dit, « Regarde-les, je t'en prie. » Donc là, elle pouvait lui dire directement, « Je t'en prie pour voir à qui sont ce sceau, ces cordons et ce bâton. » Parce que ça, on ne l'a pas lu, mais pas dans le moment où il y a eu la relation entre les deux, il lui avait demandé des gages. Et puis lui, donc Tamar avait demandé des gages à Judas, puis lui, il avait donné ses gages. Alors à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un retournement de situation. Le déclic nécessaire provoqué par cette courageuse démarche de Tamar fait éclater la vérité. D'où l'importance de dénoncer, mettre au jour l'injustice, quitte à se dévoiler. Elle s'est aussi dévoilée en même temps, Tamar. Cela a apporté un changement radical au cours des événements. On va aussi en reparler tout à la fin. Le résultat de cette mise en lumière de Tamar, c'est fabuleux de voir ça. Ça ne m'avait jamais frappé autant, je trouve. Judas les regarda et dit, donc il regarda les témoins qui étaient là autour, « Elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Il n'eut plus de relation avec elle. La vérité prend maintenant le dessus dans les paroles de Judas, puisqu'il reconnaît et confesse verbalement les faits, mais aussi dans son comportement. C'est écrit, il n'eut plus de relation avec elle. Changement radical, on pourrait dire que c'est comme un rééquilibrage de sa vie. Finalement, il y a de l'avenir pour Judas. Et puis, la miséricorde de Dieu est présente envers Judas. À partir de là, ce sont des habitudes d'homme responsable que Judas revêt. Et puis, je le vois notamment sur la base de quelques versets ici. D'abord, son attitude envers Jacob, il se positionne et il assume. C'est écrit dans Genèse 43, 8 à 10. Judas dit à Israël, son père, « Laisse partir le garçon avec moi, nous irons et nous resterons en vie. Ainsi nous ne mourrons pas, nous, toi et toutes nos familles. » Donc là, il pense déjà familial, après il pense peuple aussi, hein, il n'y a pas que pour lui. « C'est moi aussi qui me porte garant de lui, c'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas, si je ne te le rends pas, je serai toujours coupable d'un péché envers toi. D'ailleurs, si nous n'avions pas tardé, nous aurions déjà eu deux fois le temps d'être de retour. » Donc là, moi, ce qui me frappe, c'est comme il ose confronter son père à ce moment-là. Il est plus fuyant, il est vraiment dans le vis-à-vis. Aussi envers Joseph, devant qui il est en tant que gouverneur déjà, avec une attitude premièrement de repentance et d'humilité, mais surtout de courage, osant plaider la cause de Benjamin et de Jacob. Oui, c'est écrit au Genèse 44, dès le verset 18, mais surtout les suivants aussi, je trouve. « Alors Judas s'approcha de lui et dit, « Pardon, mon Seigneur, permets-moi, je te prie, de te dire un mot. Ne te mets pas en colère contre moi, ton serviteur, car tu es comme le Pharaon. » Puis là, il prend tout le temps de lui expliquer ce que ça faisait, s'il ne ramènerait pas Benjamin, ce que ça ferait à son père, qui pourrait susciter, ouais, provoquer la mort de son père. Il ose plaider cette cause devant Joseph, ce qu'il n'aurait pas osé avant, il aurait été fuyant. Et là, il ose vraiment aller de l'avant. On voit qu'il est animé d'une vérité profonde. Et puis aussi, on voit de l'extérieur, donc à partir de là, Jacob envoya Judas à Joseph. Donc ça, c'est un peu à la fin. En avant de lui pour préparer le voyage vers Goshen. Donc lui, Jacob, il donne aussi des grandes responsabilités à Judas. Ils arrivèrent au pays de Goshen. Et puis après, finalement, au niveau de ce que Jacob dit, c'est la bénédiction qu'il enverra à Judas. Il lui dit, dans Genèse 49, 8, « Judas, tes frères te célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Donc on voit qu'il y a des super promesses pour ce Judas. Et puis après, on en est à un moment un petit peu, là c'était envers la personne, et puis au verset 10, on voit que tout d'un coup, ça décale un peu sur la tribu de Judas. C'est écrit au verset 10, « Le sceptre ne sera pas retiré à Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne Silo et que les peuples lui obéissent. C'est un verset qui est un petit peu dur à expliquer, ce silo, j'ai cherché pas mal de temps, mais apparemment ça concerne même les temps messianiques. Après les passages de la Genèse, la personne de Judas, elle n'est plus tellement mentionnée en dehors des généalogies, quand on parle de Judas, fils de, tout ça. Mais on voit quand même qu'il y a encore un texte, surtout dans 1 Chronique 5, 2, Judas fut en effet puissant parmi ses frères, et de lui est issu un chef. Mais le droit d'aîné appartient à Judas. Puis aussi dans 1 Chronique 28, 4, David, parlant de Judas, ne parle pas vraiment de l'homme, mais de la tribu, puisqu'il dit que le Seigneur a choisi Judas comme chef. Il a choisi, David dit, il a choisi ma famille dans la maison de Judas, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu investir de la royauté sur tout Israël. Mais là, on commence déjà à entrevoir que cette tribu de Judas, elle va aller loin. Hein. Mais pour ce qui concerne la personne de Judas, il y a quelque chose qui est quand même super impressionnant, c'est que 300 ans après environ, il y a le récit de Ruth et de Boaz. Hein, puis ça, si vous vous souvenez, moi, on l'a lu avant-hier au forum, non, jeudi, au forum des hommes, sur la petite carte justement, hein, c'était nous. Sur nous. Donc là, c'était écrit, en fait, Boaz, il avait demandé comme témoin que le Rédempteur, ayant droit sur les terrains et sur Ruth, renonçait à ceux-ci. Donc il avait demandé à ces gens d'être témoins. Puis eux, ils lui disent, ils lui répondent ceci, puis c'est ça qui est assez dingue. « Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets que Tamar donna à Judas. » Alors moi, je trouve que Tamar donna à Judas, plutôt. Et puis moi, ça m'a impressionné encore une fois, parce que au fond de moi, dans un premier réflexe, je me disais, mais si au moins ce Pérets était né de l'union entre Tamar et Shéla, qui aurait été normale. Mais non, il est né entre Tamar et puis son beau-père. Donc là, de nouveau, c'est quelque chose de complètement fou. Puis la proclamation de ses anciens, donc, qui sont témoins pour Boaz, que finalement, c'est que Dieu, ça confirme que Dieu réhabilite Judas en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'ascendant de la tribu du même nom, dans laquelle s'inscrit la généalogie du Christ. Oui, comme vous pouvez le voir ici, oui, en Jésus, Dieu vient remplir de sa présence les abîmes les plus profonds et tortueux de la condition humaine. Jésus n'est pas venu trier les catégories de péché pour ensuite choisir de s'intégrer dans la lignée générationnelle la moins impure. Non, c'est justement la lignée de Judas que Dieu a choisie dans son plan parfait pour y faire venir Jésus-Christ, son fils bien-aimé. Dieu n'a pas eu besoin de Judas pour accomplir ses plans, mais il l'a élu comme outil, avec sa patte humaine, avec ses imperfections, ses conduites mortifères. Comme envers Judas, Dieu se réjouit de nous inviter, comme ses collaboratrices et ses collaborateurs, avec notre patte humaine, avec notre histoire, pas seulement malgré notre histoire, mais avec notre histoire, quelle qu'elle soit. Par la seule miséricorde de Dieu, Judas, avec son vécu chahuté, a laissé une trace remarquable pour ses descendants. Pour terminer, je vous invite à nous arrêter ensemble sur deux réactions, l'une concernant Judas et l'autre Tamar, donc celle que je vous ai dit, qu'on verrait à la fin. Donc la première, lorsque des attitudes, des intentions, des sentiments étranges parviennent à notre conscient et notre conscience, empêchant la paix en nous, osons nous arrêter et les questionner. Réfléchir à nos choix anciens, peut-être actuels, peut-être que maintenant on est justement sur un de ces aiguillages, et puis réfléchissons à notre choix. Et puis même si c'est des anciens, ben, il n'y a rien qui est irrévocable avec Dieu, c'est ça qui est fabuleux. Souvenons-nous qu'il est toujours possible de s'approcher de frères et sœurs. C'est un petit peu, je repense à cette parabole ou cet exemple hein, du feu, puis si on sort une braise, très vite elle s'éteint. Là. Si on s'approche, ben ça aide aussi à rester chaud. Il y a toujours quelqu'un qui est aussi disponible, même ici pratiquement, en fin de culte, mais aussi à d'autres moments, des frères et sœurs dans l'humanité. Hein, on peut s'approcher des fois d'autres. Peut-être des fois, ce n'est même pas forcément des chrétiens, mais tout d'un coup, ils peuvent nous dire quelque chose qui peut nous aider. Et puis la deuxième chose, c'est le déclic nécessaire provoqué par la courageuse démarche de Tamar. Elle fait apparaître la vérité. D'où l'importance de dénoncer, mettre au jour l'injustice, quitte à se dévoiler. Tamar, elle s'était dévoilée. Cela a apporté un changement radical au cours des événements. Là. Maintenant, je vous invite à entrer dans un temps de réflexion, dans le silence, où je peux me poser cette question, où on peut se poser, où nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que je me sens concerné par une de ces situations? Est-ce que je me trouve à un carrefour? Je vous invite à un temps de silence, et puis je terminerai par la prière, suite à quoi le groupe de louanges va reprendre un chant. Oui, Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que tu nous as créés libres. Tu nous laisses libres de décider de notre vie. C'est dans ce cadre de liberté, Seigneur, que nous voulons nous approcher ou nous rapprocher de toi. Riche des enseignements de ta parole, mais peut-être aussi riche des expériences déjà vécues jusqu'à ce jour. Nous pouvons nous écrier comme Pierre, Seigneur, à qui irions-nous sinon qu'à toi ? Merci pour ta présence vivifiante que tu nous proposes aujourd'hui, tes bras ouverts pour nous accueillir. En Jésus-Christ. Amen.